L'épopée de 17 moines bénédictins originaires des Aldudes, racontée par Mickaël et Ramouspé. Bonjour Mickaël, bonjour à tous les auditeurs. Faisons le compte. Vers 1910, nous avons 5 bénédictins des Aldudes aux États-Unis, 3 en Argentine, 2 à Jérusalem. Je suppose que les autres sont à Belloc, Mickaël.
Bonjour Alexandre. Eh bien, il n'y a plus aucun moine à Belloc. Souvenez-vous qu'en 1880 déjà, 5 ans à peine après leur installation à Belloc, ils avaient déjà été expulsés. Mais le gouvernement, par la suite, avait voulu calmer le jeu et avait fait comme s'il ne s'était pas rendu compte qu'il s'y était à nouveau installé. En 1903, il en va tout autrement. Cette fois-ci, les mailles du filet sont beaucoup plus resserrées et les congrégations sont en ligne de mire du gouvernement. Celui-ci est dans la continuité des idées de la Révolution et des philosophes des Lumières, qui considèrent que les contemplatifs sont inutiles et qu'ils n'apportent rien à la société. On veut bien admettre ou tolérer les ordres caritatifs ou soignants, mais les autres, non. Après l'alerte de 1880, Belloc avait prévu que cette fois-ci, tous leurs biens seraient confisqués. Et ils avaient pris toutes les précautions juridiques en mettant deux non-religieux propriétaires de tous les biens. Il s'agissait donc des pères Caillava et Elissag. C'est à ce moment-là, rappelons-le, au moment de la séparation de l'Église et de l'État, que les biens de l'Église, presbytère, Église, écoles furent confisqués. Le clergé n'est plus rémunéré par l'État, c'est la fin du concordat. Ce sera aux fidèles à payer le denier du culte et à prendre en charge le fonctionnement. Ce fut à la fois un coup très dur pour l'Église, mais aussi une chance, parce qu'elle n'avait plus la charge des Églises, tout en restant affectataire, et qu'elle accédait à une liberté vis-à-vis du gouvernement. Revenons à Belloc. Cette fois-ci, il n'y a pas d'échappatoire, il faut partir. Des prospections avaient déjà eu lieu en Espagne. Ils repèrent d'abord un édifice en Navarre, près de Pampelune, à Olza, où vont s'installer, dans un premier temps, les alumni et les novices, avant de rejoindre toute la communauté en Guipuscoa, à Idiazabal. Et dans ce village du Goyeri, l'accueil de la population y fut extraordinaire. Les habitants firent le maximum pour faciliter leur installation. En retour, les moines rendaient beaucoup de services, notamment dans le domaine de l'enseignement et de l'agriculture. Il faut dire que tous parlaient la même langue, et pour la plupart, ils étaient tous des paysans. Les offices se tenaient dans l'église paroissiale et attiraient nombre de paroissiens. Mais voilà, le site n'était pas du tout adapté à une vie monastique, notamment à cause d'absence de la clôture. En plus, un événement vient assombrir la communauté. En effet, le père Augustin Bastre, le père abbé et fondateur de Belloc, y mourut. Mais comme on avait continué à prospecter, on avait repéré non loin de là un couvent inoccupé à Lascano, près de Beasain, toujours en Guipuscoa, non loin de la voie ferrée reliant Madrid à Irun. Le nouvel abbé Joseph Marot, qui a succédé au père Bastre, écrit le 22 août 1905 « Je suis heureux de vous annoncer que nous finirons par entrer dans l'ancien couvent des Carmes à Lascano, qu'ils avaient abandonné depuis 70 ans. Monsieur le marquis de Valmeriana, propriétaire du monastère, est très content que nous en prenions possession. Le père Michel Caillava vient également visiter le couvent. J'ai vu Lascano en compagnie de Dom Joseph Marot. Après l'avoir visité durant une demi-journée, j'ai dit à l'abbé que son principal objectif devait être de rendre cet endroit commode et surtout joyeux, car il est passablement triste et ne conviendrait pas, tel qu'il est, à des exilés qui le sont déjà beaucoup trop. Il y a heureusement un jardin qui a 1 hectare environ et la gare de Beasheim n'est qu'à 1300 mètres. Une fois de plus, tous se mirent au travail et le transfert fut réalisé le dimanche 26 mai 1906. Le départ d'Idiassabal fut triste car les moines regrettaient Idiassabal et Idiassabal regrettait les moines. On déterra les corps des moines inhumés, dont celui du père Eubastre, puis on les déposa à nouveau autour du monastère de Lascano. On aménagea donc l'édifice et on s'y installa. Les vocations affluèrent de toute cette région de Guipuscoa, notamment du village d'Ataun. On y trouve également les bénédictins des Aldudes. Odilon Ardance, dont on a déjà parlé, Arnaud Laxac de la maison Pricciainia, qui est rentré d'Argentine, Jean-Baptiste Bidondo de Gortaidia et Raphaël Ardance de Menta de retour de Jérusalem. Rappelons que Cyprien Bouroucois était décédé à l'âge de 22 ans à Belloc dès 1887. Et nous retrouvons ici le récit de Arnaud Laxac. À Lascano, c'était le père Jean-Baptiste Bidondo de la maison Gortaidia des Aldudes qui était notre maître des novices. C'est avec lui que je terminais mon noviciat, puis je continuais au séminaire de Burgos et enfin à Vitoria avant d'être ordonné prêtre. Je sortais prêcher dans les paroisses environnantes, en langue basque ou en espagnol, selon les endroits. Ma cellule était face à Beasheim. De là, comme me disait un jour le père Joseph, je croyais contempler un coin des Aldudes, vers la maison natale du père Garriador. J'ai commencé à donner des missions à l'avant 1912. Étant insoumis, faute d'avoir fait le service militaire, je n'étais venu en France qu'en contrebande, par Elizondo et Aldudes. J'étais encore insoumis quand je donnais cette mission avec le père Odilon à Licatéré. J'avais changé de nom, père Antoine. Voilà le nom que je pris. La paroisse de Lic était assez bonne encore, 4 ou 5 qui ne firent pas la mission. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes ne font pas les Pâques. La Haute-Soule, surtout, a perdu beaucoup depuis cette époque. Au commencement de 1913, j'étais allé à Bordeaux et grâce au concours d'une ou deux personnes, j'arrangeais mes papiers de service militaire. Depuis, je venais en France sans aucune difficulté. Mais avant de raconter la suite de la vie à Lascano, il nous faut malheureusement nous arrêter à la guerre de 14. Les moines ont été expulsés de France, mais voilà qu'on les mobilise pour venir défendre la patrie. Le lendemain de la déclaration de guerre, le 2 août, le gouvernement suspend l'application des lois contre les congrégations sans toutefois les abroger. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois avec les bénédictins des Aldudes, mais cette fois-ci sur le front de la guerre de 14-18.